histoire et conte.
Moteur. Comme tous les matins depuis qu'il avait pris sa retraite, Bernard Müller avait traversé le vallon qui séparait sa maison du centre du village pour rejoindre le bistrot de pays. Annie Redon et Marc Lafitte étaient déjà attablés sur la terrasse extérieure devant leur café crème ritualisé. « Les merles sont en voie ce matin », lança Bernard Müller en leur adressant un signe de reconnaissance de la main droite. « Ah, salut, on se demandait si tu nous rejoindrais. Des problèmes ?»« Nous avons un peu traîné au lit, Cathy et moi, puis je l'ai aidé à étendre le linge. » Bernard avait mis fin à sa carrière de professeur de philosophie à 55 ans. Lorsqu'il était en poste, les temps libres que lui donnaient ses 14 heures de cours avaient été consacrés à restaurer un cabanon en pierre planté au milieu d'un hectare de sainfoin qui s'était progressivement transformé en prairie sauvage. Ses rêves d'étudiant s'étaient réalisés. Habiter une maison pratiquement construite de ses mains, vivre dans la nature, dans une commune de quelques centaines d'habitants, en semi-communauté avec d'autres amis, élever quelques poules, un cochon, et maintenant savourer une retraite quasi éternelle. Enfin, il pouvait se consacrer à ce qui était le plus important pour lui, ses propres pensées. Une voiture au pot d'échappement percé, sortie de nulle part, vint se garer à quelques mètres de la terrasse. Par la fenêtre ouverte, du rap beuglé sur un rythme barbare, boum 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 boum, digne d'une armée de vikings frappant leurs boucliers. L'individu qui en surgit portait une veste de cuir, des santiags, un pantalon moulant et une barbe brune de quelques centimètres ceinturait son menton. Son crâne était rasé, décoré de quelques tatouages. Un aigle, un serpent et un dragon. Laissant la porte ouverte, sans un regard pour les trois clients buvant le soleil, il se dirigea avec détermination vers l'intérieur du bistrot. « Il va braquer la caisse ?» demanda Marc Lafitte. « C'est la mafia, » dit Anna. « Il vient récupérer son pourcentage. »« En tout cas, il aurait pu couper le moteur, » remarqua Bernard. « Et l'autoradio, » renchérit Marc. L'homme ressortit quelques secondes plus tard un paquet de blondes à la main. Déjà, il s'en vissait une dans la bouche et, après avoir farfouillé nerveusement dans sa poche gauche, dégaina un briquet avec lequel il alluma névrotiquement la cigarette. Il remonta dans sa voiture, claqua la portière bruyamment, fit crisser les graviers du parking en reculant et repartit en faisant hurler les vitesses. Bientôt, les paroles de la chanson « Nique la France, nique les tous, c'est de leur faute, c'était comme ça, pas de passé, pas d'avenir, on les aura », s'éteignirent. La légère brise qui soufflait ce matin-là finit d'effacer l'événement. « Voici votre crème », dit Roger, qui avait repris le bistrot quelques semaines plus tôt. « Il sort d'où, celui-là ?» demanda Anne. « Je crois que c'est le fils du Fernand, celui qui travaille à la chambre d'agriculture, » dit Roger. « Il ne ferait pas sa crise d'adolescence, sans qui Bernard ?»« Depuis que ses parents se sont séparés, il déraille. Il s'est engagé il y a 6 mois dans l'armée de terre. Il doit être en permission. »« Ça n'excuse pas tout, » commenta Marc. « Il sait que les autres existent ?»« Il a dû le savoir, puis l'oublier, » fit Bernard en dégustant une demi-gorgée du liquide caramel de sa tasse. « Carpe diem, » pensa-t-il. « Rien ne devait le détourner de sa quête du bonheur, qui, dit-on, se trouve tout au fond du présent, si on sait le vivre. Je n'ai jamais compris ceux qui se garent sur un parking pour faire une course et laissent le moteur tourner le temps de leurs emplettes. Ça me dépasse, dit Marc. Marc avait été professeur de mathématiques dans le même lycée que Bernard et ne voyait la vie qu'à travers le rationnel. Comme son collègue, il avait raccroché très tôt et avait acheté à un agriculteur un terrain à bâtir en lisière du village. Sa maison était donc récente et ne possédait pas le cachet de celle de son ami. Mais elle collait assez bien à son idéal de vie de loisir, avec un petit potager, une véranda et un balcon-terrasse exposé au sud où pouvaient tenir deux chaises longues. C'est peut-être pour les cas où ce doit être rapide, suggéra Anne. Il pense que ça ne vaut pas le coup d'arrêter le moteur. On peut quand même leur voler leur voiture, commenta Roger. C'est ça qui est incompréhensible. Ils préfèrent prendre le risque qu'un passant parte avec plutôt que de tourner la clé de contact. C'est performatif, intervint Bernard. En laissant le moteur tourner, ils se persuadent que l'affaire ne durera que quelques poignées de secondes. S'ils l'éteignaient, ils pourraient craindre que leur absence ne s'éternise. Parce qu'ils laissent le moteur en marche, leurs achats ne dureront pas. C'est de la superstition, dit Anne. Anne était la compagne de Marc. Elle avait exercé le métier de psychologue scolaire dans l'établissement de Marc et de Bernard. Elle avait d'abord eu une liaison avec Bernard avant de se fixer avec Marc. Et pourquoi le rap en plus ? Demanda Marc. La peur du silence, la peur de soi-même, tenta Anne. La peur de l'autre. Philippe, un autre retraité qui avait dirigé un collège d'enseignement agricole après y avoir enseigné le machinisme, vint s'asseoir à une table à côté d'eux après avoir parqué un énorme pick-up bleu foncé. À ce moment, une Peugeot rouge alla se garer au même endroit que la voiture qui avait fait l'objet de ce début d'analyse détaillée. La porte s'ouvrit et un jeune homme de taille moyenne, portant une chemise bleu ciel sur laquelle il avait jeté un pull-over qui lui pendait dans le dos, émergea. Ses cheveux étaient mi-longs, coiffés en arrière. Il referma la portière et se dirigea tranquillement vers le bistrot, laissant le moteur allumé. « Ça, c'est un beau moteur, » déclara Philippe en connaisseur. « Ça ronronne. Le ralenti est bien réglé. On n'entend pas de cliquetis de soupape. J'aime. » Anne le fixa par en dessous, ne sachant pas si c'était à prendre au premier degré. « Manou, on n'aime pas beaucoup. Ça nous empêche de penser. » « Et d'écouter les oiseaux, » ajouta Bernard en grattant le sucre au fond de sa tasse. « Il n'empêche. Des moteurs, j'en ai réparé pas mal dans ma vie. » Avec des vilebrequins tordus qui marchaient sur trois pattes, qui hoquetaient par défaut d'arrivée d'essence. Celui-là, il chante. J'ai toujours adoré le son produit par les Peugeot. « Roger, tu devrais aller servir le nouveau client, » dit Anne. Quand même, il ne voit pas que leur attitude crée une gêne, renchérit Marc. Ils ne se mettent jamais à la place des autres ? Jamais, affirma Anne. Bernard se frotta longuement le menton avant d'oser une synthèse. « Je crois que c'est un besoin de sécurité. Leur voiture représente un prolongement d'eux-mêmes. En sortir, c'est prendre un risque, se heurter au monde extérieur. Couper le moteur, c'est aussi se couper de son véhicule. On n'a plus d'attache, on est perdu. Entendre le moteur tourner alors qu'ils font la queue pour une baguette de pain, ça les rassure. » Le lien avec leur automobile reste intact. D'ailleurs, souvent, ils leur donnent un nom. Titine, Rosette, Coquelicot, Pervenche, que sais-je. C'est leur animal de compagnie. Nous, nous sommes les ennemis. Ils nous demandent de nous adapter à eux. Dans leur logique, c'est dominer ou être dominé. Alors, ils occupent l'espace. Puis il ajouta. Osons aller un peu plus loin. Lorsqu'on meurt, l'âme quitte le corps, dit-on. Mais il arrive aussi que l'âme sorte du corps quelques instants, puis le réintègre sans avoir coupé le lien avec lui. Considérons que la voiture représente le corps et le conducteur l'âme. Alors, s'éloigner de sa voiture sans couper le moteur, puis y revenir, c'est comme revenir à la vie. En revanche, laisser sa voiture en stationnement en ayant coupé le moteur, cela peut être vécu comme une mort. Est-on sûr seulement qu'elle va redémarrer ? Anne regarda Bernard avec des yeux embués. Après tout, se dit-elle, ce type est génial. Pourquoi l'avoir quitté pour Marc ? Bien sûr, Bernard mesure moins d'1m60, tandis que Marc taquine le 1m90. Cela compte. Mais quand même, elle devrait voir Bernard plus souvent, conclut-elle. Et si on lui coupait le moteur ? Proposa Philippe. Il en mourrait peut-être, avança Anne. Tentons l'expérience, dit Marc. Car, même si son moteur sonne comme une symphonie de Beethoven, il participe au réchauffement climatique. Je préfère ne plus écouter ce concert de cylindres baignant dans une huile peut-être neuve que de mourir rôti l'été prochain. Oui, sauvons la planète, approuva Bernard. Marc se leva, fit 3 pas vers la voiture, ouvrit la portière gauche et tourna la clé de contact qu'il jeta sur le siège. « Non !» hurla l'inconnu en sortant du bistrot. « Intéressant, » murmura Anne. « Voyons sa réaction. On nage en pleine expérimentation. » L'homme les fusilla du regard, s'assit derrière le volant et tourna la clé. On entendit un clic, puis plus rien. « C'est malin. Pourriez-vous pousser ma voiture maintenant ? Je suis tombé en panne de batterie ce matin. J'ai réussi à la démarrer à la pente et me suis arrêté 1 minute pour prendre un sandwich pour le déjeuner. J'ai rendez-vous au garage dans 1 quart d'heure. « Du calme !» s'exclama Philippe. « J'ai des pinces. » Et il sauta dans son pick-up pour le garer à côté de la Peugeot du visiteur. « Soulevez votre capot » ordonna-t-il. Philippe plaça les pinces sur les 2 batteries, puis demanda à l'étranger d'essayer de démarrer tandis qu'il lancerait son propre moteur. Philippe fit rugir les cylindres de son énorme 4x4 à tel point que Marc dut lui faire signe que l'autre avait réussi à démarrer car on n'entendait plus que le bruit énorme des 6000 tours sollicités par Philippe. Celui-ci lâcha l'accélérateur et redescendit de son véhicule. « Merci, » dit le jeune homme, tandis qu'il manœuvrait pour repartir. « Philippe, tu pourrais peut-être éteindre ton moteur, » fit remarquer Marc. « Je prends juste un autre café et je repars, moi aussi. » « Ce n'est pas une raison. » Philippe fit signe à Roger de lui apporter une autre tasse. « 8 cylindres en V, vous entendez ça ? » répondit-il. « Il n'y a pas de plus belle musique. Cette voiture, c'est un bonheur. » « Et le réchauffement climatique ?» osa Anne. « Peau catalytique de pointe, ralenti optimisé, le moteur tourne, mais il ne consomme rien. Un dé à coudre à l'heure, ça tient du miracle. » Bernard se contenta de hausser les épaules. Philippe siffla son café, puis disparut. Le silence s'installa quelques instants. Bientôt, on entendit une alouette lancer sa plainte au-dessus du champ voisin. « Je vais peut-être reprendre un crème, » dit Bernard. Et il fit un geste en direction de Roger, qui se tenait debout sur le pas de la porte. « C'est quand même une belle bagnole, celle de Philippe, » lâcha ce dernier en apportant la commande. « C'est pratique, un pick-up. »« C'est vrai, » pensa Anne. « Philippe nous transporte notre bois pour l'hiver. Sans lui, ce serait la brouette ou d'impensables frais de livraison. » À ce moment, un tracteur fit son apparition sur la place. Un de ces vieux tracteurs en partie rouillés, qui n'ont pas d'âge et que les agriculteurs conservent sur plusieurs générations. « Tiens, voilà le Marcel, » dit Roger. « Il vient boire son petit blanc, j'imagine. » En effet, le nouveau venu se gara à côté d'eux, baissa les gaz et descendit comme un seigneur de sa monture. « Salut les hippies, » lança-t-il. « N'importe quoi, » murmura Anne. Le Marcel entra dans le bistrot. Il tapa sur l'épaule de Roger à l'entrée de l'estaminet. « Un ballon de blanc, un vieux nier. »« Il laisse le moteur tourner ?» s'inquiéta Marc. « On dirait, » dit Anne. « Les paysans font toujours ça. Ils ne s'arrêtent jamais de travailler, vous savez. Leur tracteur en est la preuve. »« Il crache de la fumée noire, celui-là, » remarqua Marc. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Rien, » dit Bernard résigné. Il n'y a rien à faire qu'à subir. » Le Marcel ressortit du bistrot en s'essuyant la bouche de sa manche, passa à côté d'eux. « À plus tard, les babas !» et il remonta sur son siège. Une mésange descendit d'un frêne voisin et se risqua entre les tables pour grappiller quelques miettes. Elle s'envola brutalement alors qu'une voiture jaune de la poste débarquait à côté d'eux. Une factrice en bondit, une liasse de courrier à la main, pour se précipiter à l'intérieur du bistrot. Son moteur tournait doucement. Alors, Bernard sortit une petite boîte de sa poche, en extirpa des écouteurs, les brancha sur son smartphone et s'enfonça 2 petites boules blanches dans les oreilles. « J'ai trouvé un site de chant d'oiseaux. Vous voulez que je vous envoie l'adresse ?» Il allongea les jambes, se cala sur son dossier, ferma les yeux et savoura le moment présent.